Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Revière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 3 mars, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, mis hors de cause pour le cluster de l'équipe de France de rugby. RTL vous révélait dès ce matin le résultat de l'enquête interne menée par la Fédération. Le rapport est désormais sur le bureau de la ministre, mais la Fédération peut-elle être juge et partie? Nous verrons ce qu'en dit l'ancien international Abdelatif Benazi, qui sera l'invité de ce journal. Une prime d'intéressement de 3000 euros. Le Lion de Peugeot n'a pas terrassé le Covid, mais il a bien traversé la crise et il récompense ses salariés. Des mesures locales examinées ce matin en Conseil des ministres pour faire face à la pandémie. Il faut tout faire pour éviter un reconfinement national. Dans RTL Midi aussi, une expédition punitive, heureusement rarissime, elle a été commanditée à Roussillon près de Lyon par un ado contre sa famille. Et puis le coup de cœur des correspondants nous emmènera à Lisieux dans le Calvados retrouver un coq qui avait disparu depuis 74 ans, le coq de l'église Saint-Jacques. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Qu'est-ce donc que ce voile?
Je vous l'accorde, c'est vrai que c'est plus voilé que prévu. Alors même si ça reste lumineux entre l'Aquitaine, le Limousin et un quart nord-est, mais au sud, c'est bien voilé, on ne perçoit pas le soleil, alors sauf au pied des Pyrénées et en Corse. Et puis il y a cette perturbation sur le nord-ouest avec beaucoup de nuages cet après-midi, des averses plus marqué entre la Touraine et le Pas-de-Calais, voire un coup de tonnerre. Tout ça sous des températures encore très douces, hein, on en profite. 19 à Bordeaux, 18 à Paris, Strasbourg, Lille et Lyon et 13 à Brest.
La question du jour sur RTL.fr, le gouvernement doit-il imposer plus de restrictions? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-10 et témoignez de la situation dans votre région. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, évidemment ce sera l'un des sujets du jour. L'autre sujet, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy. Je conserve ma détermination pour que triomphe le droit et la justice. Ça fait 48 heures que nous en parlons, mais avec les auditeurs, nous en parlerons de nouveau tout à l'heure. Mémoire de la guerre d'Algérie, la France doit-elle s'excuser? Emmanuel Macron a reconnu au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 57. C'est un geste d'apaisement recommandé par le rapport de l'historien Benjamin Stora et ça pourra nous faire réagir. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, une petite balade sonore. C'est le chant du balbuzard pêcheur. Il fait partie de ces oiseaux qui sont de moins en moins nombreux dans notre pays. La situation de la faune et de la flore s'est dégradée en 13 ans. Près de 20% des espèces sont menacées, d'après une enquête de l'Union internationale de conservation de la nature. Et plusieurs variétés d'oiseaux, dont donc ce balbuzard pêcheur, risquent en particulier de disparaître, Sophie Jousselin.
Oui, il y a aussi le chardonneret élégant, le verdier d'Europe ou le serin cygni. Au total, un tiers de ces oiseaux est menacé, comme 28% des crustacés d'eau douce, un quart des reptiles ou 14% des mammifères, dont le lynx. Responsable de cette dégradation de la biodiversité, l'activité humaine, la destruction de l'habitat naturel, Florian Kirchner de l'Union internationale pour la protection de la nature.
L'urbanisation, l'extension des zones commerciales, ça grignote les habitats naturels des espèces et donc ça les pousse à disparaître. L'agriculture intensive a des impacts très forts en uniformisant les paysages, quand on fait disparaître les haies, les bosquets, quand on comble les mares. Là, on fait disparaître des micro-habitats qui sont essentiels pour les oiseaux, les lézards ou les insectes. Et puis, il y a d'autres menaces comme la surpêche dans les océans ou le changement climatique qui est une menace nouvelle contre laquelle il faut lutter également.
Pourtant, en prenant les bonnes mesures, on peut sauver des espèces. C'est le cas de la loutre menacée il y a 50 ans.
Grâce à l'amélioration de la qualité des cours d'eau, c'est aujourd'hui un mammifère qui est en train de regagner tous les espaces naturels dont il avait disparu, toutes les rivières, au point qu'il n'est plus menacé aujourd'hui. Le bouquetin des Alpes avait quasiment disparu des Alpes françaises. Il est revenu notamment grâce à la création des parcs nationaux et à sa protection.
Malheureusement, d'autres espèces ont disparu de la surface de la planète, comme la perruche de Tahiti.
Sophie Jousselin, merci. Une prime de 3000 euros en période de Covid où les entreprises souffrent, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et c'est le groupe PSA Peugeot Citroën DS qui annonce cette prime d'intéressement pour environ 50 000 personnes, car le Lion, Christophe Bourou, a réussi à dégager des bénéfices.
Et cela en effet malgré la crise sanitaire et des ventes en recul, puisque le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de près de 19%. Mais la gestion serrée du patron Carlos Tavares porte ses fruits avec une montée en gamme des modèles, mieux équipés, vendus avec plus de marge. Résultat, en pleine pandémie, eh bien le constructeur a tout de même dégagé l'an dernier 2 milliards de bénéfices, avec à la clé donc une prime de 3 000 euros pour les salariés. Mais pour Jean-Pierre Mercier de la CGT, c'est de la poudre aux yeux.
C'est pour cacher la misère
la misère des augmentations de salaire. L'augmentation de salaire, ça a été de 12 euros par mois. Parce que ce n'est pas avec la prime d'intéressement qu'on vit tous les mois. La prime d'intéressement, une fois qu'elle est mangée, elle est mangée. On vit avec notre salaire tous les mois. Et augmenter de 12 euros, c'est un véritable scandale.
En revanche, les autres syndicats, eux, saluent ce geste, d'autant que déjà l'an dernier, une prime de 4000 euros avait été versée. Et au total, cette prime représente 430 millions d'euros qui vont être ainsi distribués aux salariés.
3000 euros donc pour les salariés de PSA. Quant à la gestion de l'épidémie, elle fait l'objet d'un conseil de défense ce matin. L'idée, c'est de tout faire pour gagner du temps en évitant le plus possible un reconfinement. Mais une vingtaine de départements sont toujours suivis de très près. Jean Castex doit faire des annonces demain. 1705 patients supplémentaires ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures. Et pour aider les jeunes en situation de grande précarité à cause de la pandémie, les protections hygiéniques pour les étudiantes seront gratuites à partir de la prochaine rentrée universitaire. Mais dès cette semaine, le groupe Carrefour lance une opération dans ses supermarchés, un paquet gratuit sur présentation de sa carte d'étudiant. Une nécessité pour certaines jeunes filles, Juliette G.
J'ai besoin d'un paquet de tampons qui va me coûter 4 euros.
Oriane, 22 ans, espérait ne pas racheter de protection périodique ce mois-ci, mais pas le choix. Elle dépense en moyenne 8 euros par cycle.
Moi, je trouve que c'est énorme quand même. Quand on est étudiant comme moi, 8 euros, on peut s'acheter deux plats pour le midi ou voilà, combler avec autre chose de plus nécessaire.
Alors, elle fait tout pour économiser et de temps en temps, elle garde ses tampons plus longtemps que la durée recommandée.
Surtout quand c'est la fin du mois, ça coûte cher pour un truc qui est pénible à vivre au quotidien. Donc, c'est une double peine, quoi.
Selon une enquête de la FAGE, une étudiante sur trois ne peut pas payer seule ses protections périodiques. Pour le vice-président de l'association, les conséquences sont désastreuses.
Tout d'abord, un mal-être individuel. Le fait de devoir choisir entre vivre dignement un moment normal du mois ou manger à sa faim. Et puis, on a aussi eu des témoignages comme quoi des étudiants et étudiantes avaient déjà raté les cours de peur d'avoir des fuites.
C'est le cas d'Oriane qui se réjouit. À partir de septembre, des tampons et des serviettes seront disponibles gratuitement dans toutes les universités.
Reportage Juliette G. Dans un instant, le sélectionneur Fabien Galthié mis hors de cause pour le cluster du 15 de France.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
RTL vous le révélait ce matin, l'enquête menée sur le cluster du 15 de France met hors de cause le sélectionneur Fabien Galthié. D'après la Fédération française de rugby, il avait certes quitté la bulle sanitaire pour assister à un match de son fils, mais il en avait le droit. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient zéro. Et les résultats de cette enquête interne, menée par la Fédération elle-même, se retrouvent aujourd'hui sur le bureau de la ministre des Sports, Jean-Michel Rascol.
Oui, Roxana Maracineanu sera intéressée d'apprendre que Fabien Galthié, qui a quitté le groupe France à plusieurs reprises, est exonéré de toute responsabilité. C'est ce qu'affirme le président de la commission médicale, Roger Salamon, qui a signé le rapport.
Il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoi qu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire et qu'il n'y avait aucun risque particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient zéro, ça c'est évident virologiquement, à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu les premiers cas. Et je ne dis pas ça pour le défendre, il n'a pas besoin d'être défendu, je dis ça parce que c'est la vérité.
Alors qui est le patient zéro? Eh bien pas l'un des préparateurs physiques désignés un peu trop vite par Serge Simon, le vice-président de la FFR, mais un joueur de l'équipe de France de rugby à 7 au contact du 15 de France en tant que partenaire.
Il y a aucun doute que c'est le joueur de l'équipe de 7 qui est le patient zéro et malheureusement c'est une victime et pas un coupable, hein, il ne faut pas lui taper dessus. Le protocole qu'on va proposer à M. Laporte d'y réfléchir pour voir si on le rend encore plus terrible, donc il y aura des modifications encore plus de ce protocole. Je serais fou de vous dire aujourd'hui que grâce à ça, il n'y aura plus de problème. C'était un virus diabolique.
Un virus diabolique qui peut encore empêcher le 15 de France de se rendre à Twickenham le 13 mars. La commission médicale réunie ce matin élabore un protocole renforcé à ne briser sous aucun prétexte.
Et nous sommes avec l'ancien joueur du 15 de France, Abdelatif Benazi, ancien grand nom de l'équipe de France. Bonjour.
Bonjour.
Fabien Galthié mis hors de cause pour cette histoire de cluster. Est-ce que vous êtes surpris?
Alors, la question, ce n'est pas de savoir si Fabien a été mis en cause ou autre. La question, c'est d'abord savoir est-ce que ce rapport qui a été fait, la fédération a été juge au parti, malgré la qualité des rédacteurs de ce rapport, qui sont des gens qui sont connus sur le plan médical. Mais encore une fois, quand on demande un rapport, il faut que ce soit une instance indépendante qui puisse le faire pour pouvoir un petit peu voir ce qui vraiment ce qui s'est passé. Mais encore une fois, on sent que derrière ce rapport, on veut passer à autre chose. Ce qui est vrai d'ailleurs, il faut passer à autre chose parce qu'on a, à cause des maladresses de communication des gens de la fédération, on a la tête dans la passée, et puis surtout le Covid-19, ils ont dit chacun de son côté.
Bernard Laporte, hein, oui.
Bernard Laporte, oui. Je sais pas ce que j'avais dit d'ailleurs.
Vous aviez dit la passée, mais c'était avant.
Non, Bernard Laporte, excusez-moi. Bernard Laporte et Serge Simon, donc c'est un camouflage un peu de communication qui a un peu généré une espèce de malentendu et puis une ambiance un peu délétère. Mais encore une fois, la compréhension d'une bulle sanitaire, moi je ne suis pas médecin, mais quand on voit un petit peu ce qui s'est passé pour le rugby à 7, pour le rugby de moins de 20 ans, l'équipe de France avec 17 cas comme ça, donc on sent qu'il y a, je dirais, malgré le protocole qui est exigé, malgré l'engagement de la fédération auprès du ministère de pouvoir tenir cette bulle comme ça, on sent qu'il y a quand même un certain amateurisme.
Est-ce que vous diriez, comme un autre ancien international, Jean-Marc Lhermey, que c'est une farce, ce rapport ?
Non, je dirais pas ça, mais c'est une farce, parce que c'est vrai que, c'est que dès que la police a demandé un rapport interne, on s'est tous posé la question. On sait très bien que derrière ça, on peut mettre ce qu'on veut dans ce rapport, puisque malgré les 30 caméras extérieures à l'intérieur de Marcoussis, on pourrait, pour être logique, avoir une commission extérieure pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est allé trop loin, et puis il y a, malgré le nombre en France de victimes et par rapport au respect pour eux, qu'on puisse être logique dans cette démarche. Si on demande un rapport, il faut que ce soit indépendant. Pas
d'accord. Donc ça veut dire que la ministre des Sports devrait exiger un autre rapport ?
Maintenant, il faut attendre un peu le retour. Apparemment, ce rapport est sur son bureau. Il faut voir un peu comment il va s'exprimer là-dessus. Mais je le répète, on sent que derrière ça, la fédération veut absolument passer à autre chose. Et ce qui est vrai, c'est que cette équipe de France a commencé par une vraie ambiance, des résultats, etc. Il a fallu cette maladresse de communication et cette violation à ce protocole pour cacher un petit peu cette ambiance. Et puis, il faut savoir un petit peu sur les instances internationales. Chaque équipe joue un rôle extraordinaire dans cette dynamique de préserver cette bulle sanitaire. Et quand je pense aux pauvres Fidjiens, au mois de novembre, ont été exclus, ils ont perdu tous leurs matchs parce qu'on les a accusés d'avoir violé ce. Comme ça, on aurait pu perdre ces matchs contre l'Écosse sur tapis vert. Mais encore une fois, attendons le rapport, le retour d'un ministre, et peut-être pourquoi pas faire un rapport extérieur indépendant pour comprendre, à part si on veut vraiment passer à autre chose et prendre la leçon et retenir la leçon surtout de ces maladresses et de ce cafouillage. Quoi.
Donc vous réclamez un rapport indépendant et non pas un rapport commandé par la fédération pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le 15 de France. Merci beaucoup, merci Abdelatif Benazi d'être intervenu sur l'antenne d'RTL. À bientôt. Un couple séquestré, saucissonné, frappé, ça s'est passé à Roussillon près de Lyon dimanche. On pourrait penser à un scénario classique de vol, mais en réalité il s'agissait plutôt d'une expédition punitive de la part d'un jeune homme contre sa mère et son beau-père, Frédéric Perruche.
Exactement, c'est le fils aîné de la mère de famille, 18 ans à peine, qui est à l'origine de cette opération commando aussi violente que stupide. Mise à la porte du foyer il y a 2 mois, il est venu se venger avec d'autres jeunes, des mineurs étrangers essentiellement rencontrés dans un hôtel de Valence, selon le Dauphiné Libéré. Dimanche matin, les 6 gamins ont donc investi la villa et armés de couteaux récupérés dans la cuisine. Ils ont ligoté la maman, fouillé la maison à la recherche de bijoux, d'argent, de vêtements, de matériel informatique embarqué dans la BMW du couple. Un vol assorti de coups très violents assénés au père de famille. Des coups au visage qui lui cassent plusieurs dents sous les yeux de son enfant âgé de 6 ans qui reçoit également plusieurs gifles. Les agresseurs sont masqués sauf le chef du commando, ce qui permettra son interpellation dans un train lundi soir. Les 5 autres jeunes, eux, sont rapidement arrêtés par les gendarmes. En garde à vue, le fils aîné à l'origine de l'expédition punitive qui avait promis de se venger ne s'est guère exprimé, visiblement en souffrance psychologique. Une expertise sera menée rapidement pour savoir s'il était conscient de ses actes.
Récit Frédéric Perruche. Nicolas Sarkozy se dit prêt à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme après sa condamnation à 3 ans de prison dont un enferme dans l'affaire des écoutes. Dans une interview accordée au Figaro, il affirme avoir ressenti une injustice profonde. « Je ne peux accepter, ajoute-t-il, d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait. » Les conversations avec ses avocats étaient au cœur de l'instruction et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dans sa prochaine réforme de la justice, envisage de changer les règles. Mais d'abord, Cindy Hubert, comment ça fonctionne actuellement?
Eh bien, le secret professionnel est la règle absolue. L'avocat est le confident de son client, c'est le cœur même de son métier. Pour autant, les avocats ne sont pas au-dessus des lois. Il n'y a pas d'interdiction absolue de les placer sur écoute, mais le bâtonnier doit être informé et l'avocat doit être soupçonné d'avoir commis une infraction. Cela vaut aussi pour ce qu'on appelle les écoutes incidentes, les écoutes par ricochet, une conversation entre un client sur écoute et son avocat. Les retranscriptions doivent rester absolument exceptionnelles si et seulement si cette conversation révèle une possible infraction de l'avocat.
Et qu'est-ce qui pourrait changer alors ?
Eh bien, la commission Mattei, qui a travaillé sur le sujet, propose que ce placement sur écoute ne soit autorisé qu'à une condition. Les enquêteurs devraient connaître a priori l'existence d'une infraction et pas seulement la présumer pour avoir le droit de brancher la ligne d'un avocat, des indices antérieurs. Cette autorisation d'interception devrait être aussi confiée à un juge des libertés et de la détention, quel que soit le cadre, enquête préliminaire ou instruction. Le garde des Sceaux réfléchit également à la mise en place d'une plateforme qui listerait les numéros de téléphone de tous les avocats de France. L'idée, empêcher que leur conversation soit écoutée avant même que le policier ne songe à les retranscrire.
Cindy Hubert, et puis à l'instant, on apprend que le groupe d'extrême droite Génération Identitaire a été dissous ce matin au Conseil des ministres. C'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui l'annonce dans un tweet affirmant que cette association, je cite, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence. C'était une dissolution annoncée. Dans un instant, on revient sur l'incroyable évasion de Carlos Ghosn il y a 15 mois.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Il se retrouve dans la prison de Carlos Ghosn au Japon. Deux Américains accusés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault Nissan à s'enfuir en décembre 2019 ont finalement été extradés des États-Unis. Un ancien membre des forces spéciales américaines et son fils qui avait conçu un scénario d'évasion rocambolesque, Brice Dugénie.
Oui, et dès le mois de juillet, cinq mois avant l'évasion, les enquêteurs japonais trouvent des traces du passage de ses complices. Ils sont venus trois fois au Japon pour préparer le grand jour. Pendant ces cinq mois de méticuleuse préparation, ils avaient tout prévu. L'atterrissage à Osaka, le débarquement de ces deux caisses de matériel IFI en se faisant passer pour des musiciens qui viennent pour un concert. Les caisses sont ensuite entreposées dans une chambre d'hôtel où Carlos Ghosn arrive dans la journée en train. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit entrer dans la chambre 4609 du Stargate Hotel. Il en ressort invisible, caché dans une des deux caisses noires poussées par les complices. Sans contrôle douanier, les boîtes sont chargées dans un jet privé direction Istanbul. Là, Carlos Ghosn change d'avion pour Beyrouth. Évasion réussie. Depuis, les organisateurs de cette opération, Michael Taylor, 59 ans, et son fils, 28 ans, avaient repris tranquille leur vie aux États-Unis. Jamais ils n'auraient pensé que Washington accepterait de les extrader. Ils sont désormais aux mains des juges japonais et risquent 4 ans de prison pour complicité d'évasion.
Inquiétude à 2 jours de la visite historique du pape François en Irak. Au moins 10 roquettes se sont abattues sur une base abritant des soldats américains dans l'ouest du pays. Le pape maintient son voyage qui s'affirme chaque jour un peu plus comme un casse-tête sécuritaire mais aussi sanitaire dans le contexte du Covid. Aux Pays-Bas, une explosion s'est produite ce matin près d'un centre de dépistage du Covid sans faire de blessés. Un autre centre avait déjà été incendié non loin en janvier dernier. On se souvient des émeutes qu'avait provoqué l'instauration d'un couvre-feu il y a un mois et demi.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Lisieux, en Normandie, pour une histoire de coq. Alors non pas un gallinacé qui chanterait trop fort ou trop tôt, mais le coq de l'église Saint-Jacques, disparu depuis les bombardements, depuis 76 ans, et qui viendrait apparaître, Frédéric Veil.
Eh bien, ce coq qui jadis trônait en haut de l'église Saint-Jacques, c'est l'oncle et le père de Yves Pennec qui l'avait récupéré au cours de l'été 1944.
Après les bombardements, il y avait 1000 morts. Donc ils ont participé au dégagement des corps, des blessés, et ils ont trouvé ce coq quelque part dans les décombres.
Un coq qui était resté dans la famille jusqu'au décès de son père où Yves en a hérité.
Je l'ai gardé chez moi dans mon salon pendant 3-4 ans jusqu'à ce que j'ai l'occasion d'en parler à quelqu'un qui pouvait éventuellement en faire bon usage.
Et ce quelqu'un, c'est Corinne Lejeune, sa coiffeuse, qui est également adjointe au maire.
Il avait vraiment envie de me le confier. Donc moi, je me dis, il faut absolument que j'en parle à ma collègue, à Corinne Lecourt.
Et oui, puisque cette dernière est adjointe au patrimoine, c'est donc elle qui a récupéré le coq il y a quelques jours.
Attendez, je sors le peu. Alors vous voyez, il a quand même vécu, il a beaucoup d'impact.
Bon, vous allez le restaurer?
Non, mais non, moi pour moi, en tant que passionné de patrimoine, ce que j'aime c'est la pièce avec son vécu. Donc on va le remettre en position dans l'église Saint-Jacques, avec un petit cartel pour expliquer aux gens son histoire.
Ah oui, car trop abîmé ma chère Christelle, ce coq coque en zinc ne remontera pas en haut de l'église d'où il est tombé il y a 77 ans.
Pendant les bombardements de 1944. Formidable histoire, merci Frédéric Veil. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans 5 minutes. Pascal.
J'ai suivi évidemment cette histoire du rugby et... Je suis ennuyé parce que ce climat de délation, il est horrible de désigner comme ça Fabien Galthié, comme ça a été fait. On est vraiment passé aujourd'hui dans une atmosphère qui n'est pas grave. Mais en même temps, le rapport, on aimerait que ce soit un rapport indépendant.
Bah, oui.
C'est quand même le rapport de la fédération qui juge la fédération
on
et qui protège la fédération, sans doute. Bon.
Ça pose un petit problème.
Ça pose un petit problème. Mais en même temps, vous voyez, alors là, c'est dur en même temps. C'est vrai que c'est un drôle de climat quand même. Je vois aujourd'hui les papiers, Fabien Galthié, montré du doigt, patient zéro, tout ça. Voilà, en un an où on en est, et ce qui est vrai aussi parfois dans une équipe de football, bah c'est vrai dans notre monde, hein, parfois dans les entreprises, ça peut exister, il y a un climat qui n'est pas toujours agréable, disons-le, de ce point de vue-là. Alors les autres sujets, évidemment Nicolas Sarkozy, ça sera intéressant, hein, ça sera le troisième jour, mais là Nicolas Sarkozy a parlé hier, les mémoires de la guerre d'Algérie, ça c'est vraiment un bon sujet. Emmanuel Macron a reconnu au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française. Je me souviens, j'étais en cours, il y a 30 ans, on étudiait la question d'Henri Alleg sur la torture. Bon, et on voit que les plaies ne sont toujours pas refermées. Donc on parlera de tous ces sujets, mais la météo arrive, je crois.
Et oui. Et on se croit toujours au mois d'avril, Peggy Broche.
Oui, c'est vrai, Christelle, côté température, elles sont très élevées. On est souvent 8 degrés au-dessus des normales, 19 à Biarritz cet après-midi, ainsi qu'à Cognac et Clermont-Ferrand, 18 à Paris, Montauban, Ambérieu, Mulhouse, 17 à Lille, Bourges et Ajaccio, 16 degrés à Nantes et Nîmes, 15 à Toulon et 13 à Cherbourg. Alors, il y a cette perturbation sur le nord-ouest depuis ce matin qui se décale entre le Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, l'ouest de l'Île-de-France et la Touraine cet après-midi, un ciel plus nuageux, des averses parfois marquées, un coup de tonnerre possible au nord de la Seine. Et plus à l'ouest, un peu moins de nuages que ce matin, mais encore quelques gouttes. Entre l'Aquitaine, le Limousin et un quart nord-est, là ça reste agréable, il y a juste un léger voile mais ça reste lumineux. En revanche, sur le reste de la moitié sud, on ne verra pas le soleil ou très peu parce que ce sera bien voilé, ça l'est déjà d'ailleurs. Et puis il y a toujours ces nuages bas sur le Roussillon, c'est tout de même plus lumineux au pied des Pyrénées et même très ensoleillé en Corse.
Et demain, un petit coup de moins bien.
Oui, ce sera bien nuageux sur une large moitié nord avec des averses plus marquées sur la partie est, surtout l'après-midi. Midi. Sur la moitié sud, jusqu'en Alsace, il fera beau le matin, mis à part la grisaille sur le Languedoc-Roussillon toujours, et puis sur le midi toulousain également. Mais l'après-midi, le soleil aura du mal à s'imposer, ce sera encore très voilé, sauf sur le sud-est et la Corse, et tout ça sous des températures qui vont commencer à baisser. On pourra parfois perdre 6 degrés, comme à Paris par exemple, dans l'après-midi, mais on sera toujours au-dessus des normales, 7 à 15 degrés au nord, et jusqu'à 18 dans le sud-ouest.
C'est encore un peu d'hiver.
C'est encore un peu l'hiver, la normale au nord, c'est de 10 degrés. Donc voilà,
bah, on va pas se plaindre.
Je crois qu'il devait faire très froid ce week-end à Paris.
Ça arrive justement.
Mais
oui.
Genre moins 2 des
le matin, oui, on aura des gelées, exactement.
C'est fou quand même.
Mais, oui.
Ça s'appelle l'hiver. Je vous dis, mon bon monsieur. Allez, dans un instant, vous prenez la parole sur RTL. Appelez-nous au 3210.
RTL Midi.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est une première, mais nous allons parler du Covid. Avec Franck. Bonjour Franck.
Bonjour Pascal.
Je n'en ai pas assez, bien évidemment, mais bon, c'est toujours la même chanson. Est-ce que vous craignez un reconfinement local ?
Non, j'espère même un reconfinement généralisé.
Ah bah, vous m'avez bien donné le moral, j'ai bien fait de vous donner la parole. Christelle.
Eh bien, parlons-en justement. À quoi ressemblera l'après-Covid ? Emmanuel Macron réunit à 17h Jean Castex et les ministres concernés pour étudier les différents scénarios de réouverture des lieux publics et notamment l'introduction d'un pass sanitaire. En même temps, de nouvelles mesures de restriction sont à l'étude dans une vingtaine de départements où la circulation du virus s'est amplifiée ces derniers jours. Jean Castex tiendra une conférence de presse demain. RTL vous le révélait ce matin, l'enquête menée sur le cluster du 15 de France met hors de cause le sélectionneur Fabien Galthié. D'après la Fédération française de rugby, il avait certes quitté la bulle sanitaire pour assister à un match de son fils, mais il en avait le droit. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient zéro. Ce rapport interne est désormais sur le bureau de la ministre des Sports. Emmanuel Macron reconnaît au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste algérien Ali Bloumengel a été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957. Aucun crime ni atrocité ne peut être excusé ni occulté, dit le président. Et il entend multiplier les actes symboliques pour réconcilier nos deux pays. Une nouvelle journée de répression meurtrière en Birmanie. Au moins 11 manifestants pro-démocratie ont été tués, plusieurs autres blessés. Les forces de sécurité continuent à tirer à balles réelles, malgré la condamnation de la communauté internationale.